Tipeee. Merci d'écouter RFI. 9h à Port-au-Prince et à Washington. Il est 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Cantner.
Dernière partie avec Haïti à la une. Vous entendrez tout à l'heure la réaction d'habitants de Port-au-Prince à la décision dominicaine de durcir encore la politique migratoire. Et nous serons en ligne avec notre confrère Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. On fera le point aussi sur le recours à la peine de mort aux États-Unis. Usage que Donald Trump veut relancer, Amnesty International publie aujourd'hui un rapport sur la question. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer françaises, avec vous Serge Massot, ce mardi, vous nous parlerez de ces perquisitions qui ont eu lieu hier au Conseil Régional de Guadeloupe.
Oui, il s'agit d'une enquête en lien avec la gestion des fonds FEDER, les fonds européens pour le développement régional.
A tout à l'heure.
RFI Midi.
Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité internationale. Dans votre journal, Juliette Pietraszewski, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Face aux droits de douane imposés par Donald Trump, des critiques internationales et américaines se font entendre.
Aujourd'hui, Pékin a promis de combattre jusqu'au bout, malgré la menace de Donald Trump, de nouvelles surtaxes américaines. Le président américain a également jugé insuffisante la proposition de Bruxelles d'une exemption de droits de douane totale et réciproque pour les produits industriels. Si l'administration américaine assure rester ouverte à la négociation aux États-Unis, certains ténors du milieu des affaires, autrefois soutien de Donald Trump, commencent aussi à donner de la voix à Anne Verdaguer.
Oui, c'est un vrai changement de ton. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump avait conservé le soutien de ses ténors des multinationales américaines, mais la chute des marchés a brisé le mur du silence. Le PDG de la banque JP Morgan Chase, une personnalité très respectée à Wall Street et l'un des grands défenseurs de Trump, parle dans une lettre à ses actionnaires des conséquences inflationnistes de la politique tarifaire de Trump. Bill Ackman, le milliardaire propriétaire d'un fonds d'investissement et autrefois indéfectible soutien du président américain, a fustigé pour sa part les taxes douanières qu'il qualifie d'erreur. Nous sommes en train de détruire la confiance dans notre pays et ce n'est pas pour cela qu'on a voté, a-t-il ajouté. Ben Shapiro, le fondateur du Daily Wire, un média conservateur, s'est lui exprimé dans son podcast.
Il y a de vraies conséquences dans le monde réel pour ce genre de décision et les guerres commerciales ne sont pas faciles à gagner, en particulier quand vous n'avez pas de plan derrière.
Les plus grands milliardaires américains, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, essuient des pertes colossales depuis la hausse des droits de douane, mais c'est Elon Musk, patron de Tesla et du réseau social X, proche conseiller de Trump, qui perd le plus d'argent, 20 milliards de dollars pour la seule journée de vendredi. Lui aussi change son fusil d'épaule, espérant un retour en arrière du président américain.
Les précisions d'Anne Verdaguer. Un point rapide sur les marchés. Les bourses asiatiques sont pour la plupart reparties à la hausse aujourd'hui, reprenant leur souffle après plusieurs séances de plongeon. Les bourses européennes tentaient un rebond dès l'ouverture. Wall Street va ouvrir dans quelques minutes.
Et parmi les pays concernés par ces droits de douane, ceux de l'ASEAN sont parmi les plus durement touchés par les taxes décrétées par le président américain.
Au Vietnam, c'est 46% de droits de douane qui sont imposés. Un coup de massue pour Hanoï qui a proposé à Washington de suspendre les surtaxes pour une période de 1 à 3 mois pour mener des négociations. Hubert Testard est spécialiste de l'Asie et des enjeux économiques internationaux.
Le Vietnam a déjà fait des gestes. Bon, pour l'instant, ces gestes n'ont eu aucun impact. Ça veut dire probablement que l'administration Trump va exiger des concessions plus importantes. Il faut se rappeler qu'en 2018, quand la première administration Trump, il y avait déjà eu à l'époque des droits de douane, mais qui portaient essentiellement sur l'acier, l'aluminium et un certain nombre de biens de consommation. Tout le monde avait été taxé dans un premier temps. Et puis ensuite, Trump avait négocié des concessions et donné des exemptions pays par pays. Je pense que tout le monde espère que des négociations vont aboutir à des résultats. Mais la barre qui a été posée là est beaucoup plus importante que précédemment. Il y a déjà 10% de droits de douane pour le monde entier qui ont été décidés et qui s'appliquent à tout le monde, même les Australiens, par exemple, qui ont des déficits commerciaux avec les États-Unis. Donc ça, je pense que ces 10%-là, ils vont rester parce que c'est ce que l'administration Trump veut récupérer comme argent pour pouvoir financer des baisses d'impôts. Et puis après, il y a une partie négociable.
Hubert Testard, spécialiste de l'Asie et des enjeux économiques internationaux, au micro de Tu Hang, journaliste à la rédaction en vietnamien.
Les États-Unis qui suivent aussi de près la guerre en Ukraine.
L'Ukraine qui vient de publier une vidéo d'un prisonnier de guerre chinois présumé combattant pour l'armée russe. Le président Volodymyr Zelensky demande des explications à Pékin et une réaction des Occidentaux. On y reviendra plus dans le détail dans une prochaine édition. En parallèle, toujours sur fond de guerre en Ukraine, ce mardi, Moscou dit avoir repris l'une des dernières localités occupées par Kiev dans la région de Koursk.
Washington en discussion directe avec Téhéran sur le programme nucléaire iranien. C'est ce qu'a annoncé Donald Trump hier.
Au moment où il recevait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui est reparti sans les concessions commerciales qu'il espérait obtenir. Nous avons des discussions directes avec l'Iran. Elles ont commencé, elles se poursuivront samedi. Nous aurons une très grande réunion, a déclaré à la presse le président américain. L'Iran a confirmé en mentionnant des discussions de haut niveau indirectes qui auront lieu samedi à Oman. Déclaration du ministre iranien des Affaires étrangères qui précise que la balle est dans le camp de l'Amérique.
L'Iran, où plus de 900 personnes ont été exécutées l'année dernière. Aujourd'hui, un nouveau rapport d'Amnesty International vient d'être publié.
Et le constat est sans appel. Le nombre d'exécutions de peine de mort a atteint son plus haut niveau depuis 2015. Le rapport mentionne plus de 1500 exécutions l'année dernière. Et la majorité de ces mises à mort ont eu lieu dans trois pays du Moyen-Orient, Pierre-Olivier.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran responsables de plus de 90% des exécutions en 2024. Dans la majorité des cas, pour des infractions à la réglementation sur les stupéfiants ou pour terrorisme, notamment en Arabie Saoudite et en Irak. L'Iran a de son côté exécuté au moins 972 personnes l'année dernière et condamné des centaines d'autres à la peine capitale. Anne Denis, responsable de la commission peine de mort à Amnesty International France.
Des opposants, des dissidents, des gens qui ont manifesté pacifiquement à la dernière campagne Femmes, Vie, Liberté. Il y a aussi des minorités ethniques, comme par exemple les Balouches, les Kurdes. Et puis cette année, donc en 2024, on a vu aussi beaucoup d'Afghans exécutés.
Le rapport note également qu'au Moyen-Orient notamment, les autorités utilisent la peine de mort pour réduire au silence les opposants et instiller la peur au sein de la population. En 2024, l'Irak, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont donc en haut du tableau du nombre d'exécutions. Le rapport d'Amnesty International précise toutefois que, faute de données, la Chine n'a pas été référencée dans ce classement, alors que le pays compte probablement le plus grand nombre de mise à mort.
Pierre-Olivier, depuis le 18 mars au Proche-Orient, les bombardements israéliens ont repris, mettant fin à près de deux mois de trêve. Aujourd'hui, la défense civile du territoire palestinien annonce 19 morts dans des frappes israéliennes depuis lundi soir.
C'est une première dans l'Union européenne. 11 personnes attaquent aujourd'hui l'État français en justice.
Les plaignants sont des victimes d'inondations, de canicules répétées ou encore de difficultés d'accès à l'eau potable. Ils soulignent un manquement au devoir d'adaptation au dérèglement climatique. Ils sont accompagnés par Greenpeace, Oxfam et le mouvement Notre Affaire à tous. Pour eux, le constat est simple, les autorités ne protègent pas assez la population contre les conséquences du changement climatique, Pauline Berger.
En 2018, Salma Chaoui emménage dans un logement social à Paris. Rapidement, de la moisissure apparaît sur les murs, mais le bailleur lui conseille simplement d'aérer davantage. Face à cette réponse, l'étudiante de 23 ans entreprend des travaux elle-même, sans succès.
Il y a vraiment un sentiment d'injustice qui est ressenti tous les jours. Et de grosses conséquences sur nos santé. Mon petit frère, il a une maladie chronique, dont une des causes de développement, c'est la présence de champignons. Et le changement climatique, ça fait que renforcer le développement de ces moisissures. Plus il pleut, plus il fait chaud, plus les moisissures se développent. En fait, ça nous tue à petit feu.
Au cœur de cette action en justice, le troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Son contenu est encadré par la loi européenne sur le climat, selon Clément Capdebos, avocat au barreau de Paris. Il estime que le texte ne répond pas à plusieurs critères.
Le plan ne tient pas suffisamment compte des vulnérabilités, qui sont celles, par exemple, de certaines personnes, en raison de leur situation de santé, par exemple, ou de leur mode de vie. Et surtout, il ne tient pas compte des vulnérabilités des territoires d'outre-mer qui sont véritablement les grands oubliés. On a également constaté que les budgets étaient en grande partie non définis, ce qui permet déjà de douter de la possibilité de mettre en œuvre ce plan efficacement.
Le gouvernement a deux mois pour faire un retour aux sinistrés. S'il juge la réponse insuffisante, un recours sera déposé devant le Conseil d'État.
Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.
Merci Juliette Pietraszewski. Dernière partie d'RFI Midi. Nous sommes sur le continent américain et on prend d'abord la direction d'Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti qui se désole de nouvelles mesures du côté de la République dominicaine pour durcir la politique migratoire. 1500 soldats supplémentaires déployés à la frontière, en plus des 9500 déjà sur place. Le mur construit à la frontière va être prolongé, agrandi. alors qu'Haïti se débat chaque jour davantage dans une crise sécuritaire sans précédent. La République dominicaine, elle, renforce son dispositif contre les migrants, invoquant la détérioration du climat sécuritaire chez son voisin. Le président Abinader en a parlé dimanche, évoquant un plan de 15 mesures pour renforcer les contrôles à la frontière et limiter plus drastiquement encore l'arrivée d'Haïtiens sans papier dans son pays. Ces mesures, elles vont rendre la situation des Haïtiens encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà, y compris en République dominicaine. C'est ce que craignent des habitants de Port-au-Prince, rencontrés par notre correspondant Peterson Luxama.
Les annonces du président dominicain sonnent très mal aux oreilles de certains citoyens de la capitale, à l'image de Michelson, étudiant en droit à l'Université d'État d'Haïti.
Ces dispositions sont comme un coup de massue pour les migrants haïtiens qui laissent leur pays pour aller chercher une meilleure vie sur le territoire voisin. C'est vraiment triste de voir Luis Abinader agir de la sorte, alors qu'Haïti et la République dominicaine partagent la même île.
Pour Richardson, ces nouvelles règles laissent présager des jours sombres aux migrants haïtiens qui étaient déjà très mal vu par les Dominicains.
Il y a une chasse aux Haïtiens qui s'opère en République dominicaine de manière inhumaine. Lorsque des agents dominicains interceptent un Haïtien, ils le maltraitent, l'humilient, le laissent dormir sans nourriture ni possibilité de se laver.
La situation interpelle aussi Sephora, étudiante en psychologie à la faculté d'ethnologie. Ce qui est pire encore, dit la jeune femme, c'est le silence total des autorités haïtiennes.
Chaque jour qui passe, la République dominicaine se montre plus sévère envers les migrants haïtiens. Malgré l'attitude du gouvernement dominicain, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement n'ont pas pris la moindre mesure pour protéger nos compatriotes.
Et dans le silence des autorités haïtiennes, la République dominicaine poursuit l'expulsion et l'arrestation des migrants haïtiens. Au cours du week-end écoulé, plus de 500 ont été arrêtés, selon le journal Listin Diario. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et nous sommes en ligne maintenant avec notre confrère, directeur de l'agence Alter Press. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Anne.
On va continuer à parler des liens entre la République dominicaine et Haïti, puisque Haïti a interdit hier l'entrée de camions transportant des produits importés passés par la République dominicaine. Désormais, les produits qui ne viennent pas directement du pays voisin, mais d'ailleurs dans le monde, devront passer par les ports haïtiens.
Oui, c'est précis. Les décisions sont importantes. Les autorités haïtiennes réitèrent donc que cette mesure n'affecte en rien le commerce direct entre Haïti et la République dominicaine, mais uniquement les conteneurs en transit. Ces conteneurs, souvent originaires d'autres pays, notamment de Miami aux États-Unis, transitent par la République dominicaine avant d'arriver en Haïti. Les saisies effectuées ces derniers temps ont révélé la présence d'armes et de munitions dans ces conteneurs. Pour Fritz Jean, président du Conseil présidentiel de transition, la gestion de cette crise nécessite des contrôles rigoureux aux frontières pour réduire les activités criminelles transnationales et sécuriser le territoire haïtien.
Décision prise donc dans le cadre d'une situation sécuritaire catastrophique en Haïti et votre agence en donne une nouvelle illustration avec le bilan de 2 mois d'attaque à Quinscoff, localité crucifiée, titre Alter Press.
Les attaques de gangs ont causé en effet la mort d'au moins 262 personnes, tandis que 66 autres ont été blessées, selon un bilan des Nations Unies. Des violences sexuelles ont également été commises et les gangs ont aussi saccagé des maisons et ont incendié plus de 190 d'entre elles. Les notables parlent de leur côté de 7000 déplacés et 1500 maisons incendiées, sans compter les personnes kidnappées. Les membres des gangs ont fait preuve d'une brutalité extrême, cherchant à semer la peur au sein de la population. On reconnaît le bureau intégré de l'ONU. Une éventuelle prise totale de Quinscoff mettrait en difficulté Pétionville, où s'établissent de nombreux commerces, bureaux et ambassades.
Et dans ce contexte d'attaques de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes de la part des gangs, votre site se pose la question, est-il trop tard pour renverser la vapeur ?
Bien, sans une approche globale combinant des mesures de sécurité renforcées, une coopération internationale accrue et des initiatives de développement socio-économique, Haïti ne pourra pas s'en sortir seul ni s'attaquer aux causes profondes de cette crise et restaurer la stabilité. Telle est la réponse fournie par la journaliste Nancy Rock qui a établi l'historique de l'insécurité en Haïti pour constater l'extrême gravité de la situation aujourd'hui. Si rien n'est fait rapidement, la situation risque de devenir irréversible, avec Haïti sombrant dans un chaos total, mais avec une stratégie cohérente et du soutien international et local, le pays pourrait encore se relever, conclut-elle.
Merci Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Presse. On vous retrouve mardi prochain. Et d'ici là, tous les articles que l'on vient d'évoquer sont à lire sur votre site alterpresse.org. Un mot encore d'Haïti, où les journalistes sont de plus en plus souvent pris pour cible par les gangs. On en parlait hier sur cette antenne. Deux sont portés disparus depuis l'attaque menée à Mirebalais en début de semaine dernière. Je vous propose d'écouter Marie-Raphaël Pierre de l'Association des journalistes haïtiens.
On est très préoccupés. Voilà pourquoi l'Association des journalistes haïtiens appelle à une mobilisation urgente des autorités haïtiennes pour protéger les journalistes et les médias. Il faut rappeler que dans la nuit du 12 au 13 mars, les criminels de la coalition Vive Ensemble ont vandalisé la radio Mélodie FM, incendié les locaux de Radio-Télévision Caraïbe et aussi les locaux de Télépluriel dirigés par la journaliste Marie-Lucie Bonhomme, qui, elle, on se le rappelle, a été kidnappée en juin 2023. Toute attaque contre les journalistes sont une attaque contre la liberté de la presse et on le croit fermement, la liberté de la presse est un pilier incontournable pour sortir Haïti du chaos. La liberté de la presse, si elle est menacée, c'est foutu pour Haïti.
Marie-Raphaël Pierre de l'Association des journalistes haïtiens, elle répondait à Daniel Valo.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
C'est l'incertitude toujours pour Kilmar Abrego Garcia, expulsé à tort par les États-Unis dans le cadre de l'opération massive voulue par Donald Trump. Il a 29 ans, aujourd'hui il se trouve au Salvador. Un juge avait ordonné son retour aux États-Unis avant hier minuit, mais la Cour suprême a bloqué la décision. Exemple emblématique des procédures judiciaires qui entourent cette politique du président américain et qui préoccupe les journaux. C'est à la une de votre revue de presse, Juliette Chénion. Le média indépendant ProPublica a enquêté sur les expulsions qui s'effectuent en grande majorité par avion.
Oui, Anne, et le titre de l'article annonce la couleur. Ce n'est qu'une question de temps avant un désastre. L'article débute à bord d'un vol au-dessus du Mexique. Une petite fille fait un malaise, elle suffoque pour lui venir en aide. Une hôtesse de l'air qui témoigne anonymement dans le papier adresse la parole à la famille et déroge par là même au règlement. Cette scène à bord d'un avion de la compagnie Global Crossing Airlines, c'est en fait le quotidien des personnels navigants. Anne, au fil des témoignages recueillis par ProPublica, on apprend que loin de l'efficacité militaire mise en avant par la Maison Blanche, ces expulsions se font via des vols charters avec des employés civils, donc certains embauchés initialement en pensant transporter des équipes de sport ou des groupes de rock. Ils ne nous ont pas dit que ces gens allaient être attachés des poignets jusqu'aux foutues chevilles, s'énerve un employé, inquiet aussi pour la sécurité en cas d'évacuation. Quant à la petite fille malade, son vol a fait demi-tour. L'hôtesse de l'air, qui a aujourd'hui démissionné, n'a jamais su si l'enfant avait survécu. L'article finit sur les mots de l'employé. J'ai pleuré après tout ça.
Juliette Chénion, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre revue de presse. Pour le moment, on va parler de la peine de mort aux États-Unis. On le disait dans le journal tout à l'heure, Amnesty International publie aujourd'hui un rapport sur la question. Le sujet est particulièrement sensible aux États-Unis parce que Donald Trump a décidé par décret de renforcer l'usage de la peine capitale au niveau fédéral. Le président américain vise en particulier les auteurs de meurtres de policiers ou bien les crimes commis par des étrangers qui seraient en situation irrégulière. Et ce, alors que les exécutions sont en baisse aux États-Unis. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Alors Donald Trump peut-il vraiment relancer les exécutions?
Alors en fait, Anne, ce n'est pas si simple. Et comme souvent avec lui, avec Donald Trump, il y a un écart entre les annonces et la réalité. Le président ne peut agir que sur les exécutions fédérales. Or, ces exécutions sont très rares. Son prédécesseur Joe Biden avait instauré un moratoire. Pour vous donner une idée, Anne, depuis 50 ans, seules 17 personnes ont été exécutées. Alors là, on parle seulement pour le niveau fédéral, car la grande majorité des peines de mort sont prononcées et appliquées par les États. Écoutez Corinne Allain, professeur de droit à l'Université de Virginie.
Right now, only 27
Aujourd'hui, seuls 27 des 50 États américains ont maintenu la peine de mort, et parmi eux, 4 l'ont suspendue. Une dizaine d'autres ne l'ont plus appliquée depuis plus de 15 ans. En réalité, seule une douzaine d'États procèdent encore à des exécutions.
Et même dans ces États, la tendance est à la baisse.
Oui, y compris dans les États conservateurs, donc les États du Sud. Alors, pourquoi ce recul ? Eh bien, pour deux raisons.
Dans ces États, les responsables politiques ont fini par admettre que la peine capitale n'a pas d'effet dissuasif. Il y a quelques années, un sondage auprès des officiers de la police a révélé que la peine de mort arrivait en toute dernière position des moyens jugés efficaces pour lutter contre les crimes violents. Et puis c'est aussi une question de coût. Des États comme New York ou le New Jersey, qui ont fini par abolir la peine de mort, avaient dépensé des millions pendant des années sans exécuter personne.
To show for it. Mais pourquoi la peine de mort coûte-t-elle aussi cher ?
Parce qu'en fait, quand une vie est en jeu, Anne, eh bien, les procédures judiciaires sont très très longues, beaucoup plus longues que d'autres procédures. La sélection du jury est très complexe, il y a davantage d'avocats qui sont souvent commis d'office, donc c'est l'État qui les paye. Il y a plus d'expertise, il y a plus de recours aussi, et les conditions de détention sont encore plus strictes, donc tout cela représente en fait des millions de dollars pour les États.
Et puis il y a un autre débat de plus en plus vif, c'est celui qui porte sur les méthodes d'exécution.
Oui, exactement. Aujourd'hui, la plupart des condamnés à mort sont exécutés par injection létale, mais cette méthode, vous savez, est de plus en plus contestée. Elle peut provoquer d'atroces souffrances qui durent parfois plusieurs dizaines de minutes. Résultat, de moins en moins de laboratoires acceptent de fournir les substances nécessaires. Il y a même une pénurie. Certains États se tournent donc vers d'autres méthodes, le gaz azote, par exemple, une méthode qualifiée de torture par l'ONU. Et récemment, en Caroline du Sud, un condamné a demandé à être exécuté par balle, ce qui n'étonne pas Corinne Allain, professeure de droit à l'Université de Virginie.
Je ne suis pas surprise que ce prisonnier ait choisi le peloton d'exécution. Tous les États ne permettent pas ce choix, mais certains oui, comme le Tennessee, où les 7 derniers condamnés ont préféré la chaise électrique à l'injection létale. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que cette injection, c'est pire. C'est une méthode en apparence humaine, mais qui cache en vérité la violence de l'État.
Alors pour l'instant, Anne, on ne sait pas si le décret présidentiel aura vraiment un impact sur la politique des États. Même au sein du camp républicain, certains reconnaissent que cette relance des exécutions au niveau fédéral a surtout un objectif politique, c'est-à-dire plaire à la base électorale de Donald Trump. Depuis le début de l'année 2025, 10 personnes ont été exécutées dans les États, un chiffre qui reste dans la moyenne de ces dernières années.
Achim Lippold, pour ce dossier, le rapport d'Amnesty International est publié aujourd'hui et vous pouvez trouver plusieurs éclairages sur le site internet de RFI. Aux États-Unis toujours, c'est une décision qui est passée presque sous les radars tant le président américain multiplie les annonces et les décrets depuis sa prise de pouvoir. Pourtant, elle en dit beaucoup sur la place de la religion dans la politique de la nouvelle administration américaine. Au début du mois de février dernier, Donald Trump a créé un bureau de la foi à la Maison-Blanche avec à sa tête la télévangéliste Paula Whitecaine.
Wherever I go, God rules. When I walk on White House grounds, God walks on White House grounds. I had every right and authority to declare the White House as holy ground because I was standing there.
Paula Whitecaine, qui peut dire donc lors de prêches qu'elle a le droit de déclarer la Maison-Blanche comme un lieu sacré. Bonjour François-Damien Borgerie.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et tous.
Qui est-elle ?
Alors Paula Whitecaine, c'est une télévangéliste, vous l'avez dit, une prédicatrice qui est aujourd'hui âgée de 58 ans et qui s'est fait connaître par ses shows télévisés spectaculaires où il lui arrivait de se mettre en transe ou de pratiquer l'exorcisme. C'est d'ailleurs comme ça, en la voyant à la télévision, que Donald Trump l'a découverte en 2001 et qu'il en a fait sa conseillère spirituelle 15 ans plus tard.
Mais elle est aussi une pasteure très controversée.
Oui, et notamment en raison de ses pratiques religieuses que ses détracteurs disent relever de l'hérésie, voire du charlatanisme. Paula Whitecaine fait partie de ces prédicateurs qui prônent l'évangile de la prospérité, une idée selon laquelle la richesse et la bonne santé seraient des grâces divines et qu'on obtiendrait plus facilement en faisant des dons à son pasteur en monnaie sonnante et trébuchante.
Et donc, c'est elle que Donald Trump a choisi pour diriger ce bureau de la foi à la Maison-Blanche. Est-ce qu'on sait un peu de quoi il s'agit ?
Alors pour ça, je vous propose d'écouter Marie-Guette Lebrun. Elle est professeure en civilisation américaine à l'Université de Toulon.
C'est un bureau, en fait, qu'il présente comme une nouveauté, mais il existe depuis la présidence de George Bush fils en 2001. À l'origine, l'idée, c'était de permettre, en fait, aux organisations religieuses de pouvoir bénéficier de financements fédéraux, en tout cas pour distribuer de l'aide au même titre que des organisations laïques. Ce qui me semble nouveau avec le bureau tel qu'il a été annoncé par Trump et tel que les choses prennent forme, c'est qu'il y a cette dimension selon laquelle le bureau sera vraiment associé à la lutte contre toutes les violations de la liberté religieuse. Et quand il dit ça, c'est la liberté religieuse des chrétiens. Ça sera par exemple le relais pour toute organisation religieuse pour faire remonter des violations de la liberté religieuse et faire en sorte que le pouvoir fédéral veille à ce que cette liberté religieuse soit bien protégée.
Et qu'est-ce que cette nomination dit de la place de la religion dans la politique de Donald Trump ?
Eh bien, ça montre la place prépondérante que les chrétiens ultra-conservateurs occupent au sein de l'administration actuelle. Paula Whitecaine, comme le vice-président J.D. Vance, est l'une des figures du nationalisme chrétien, une idéologie selon laquelle l'Amérique a été fondée en tant que nation chrétienne et qu'elle doit donc le rester. Ce qui met sérieusement à mal le principe de séparation entre l'Église et l'État actuellement en vigueur aux États-Unis.
Paula Whitecaine, porte-parole, porte-drapeau de la croisade ultra-conservatrice de Donald Trump. Votre article, François-Damien Bourgerie, est à lire sur notre site rfi.fr.
RFI, la radio del mundo.
On vous retrouve, Juliette Chénion, pour la suite de votre revue de presse en Argentine, où les journaux regardent de près les soubresauts des bourses mondiales.
Oui, dans un panorama mondial turbulent et énigmatique, nous dit La Nation, l'horizon reste mystérieux pour l'Argentine. Des réactions en chaîne pourraient arriver, explique l'éditorialiste argentin qui écrit au conditionnel. Un exemple, l'inflation aux États-Unis renforcerait le dollar, le peso argentin resterait plus fort qu'il ne l'est, cela freinerait encore la production de richesses et in fine, il y aurait un risque de détruire des emplois dans le pays.
Et l'enjeu est aussi politique pour le président.
En Argentine, le dollar, l'inflation, l'économie et le soutien au président Javier Milei dépendent les uns des autres, écrit le journal. L'éditorialiste se demande aussi comment une pénurie de dollars influerait sur le futur accord entre l'Argentine et le FMI, car encore avec des si, cela pourrait conduire à une hausse des prix, tout le contraire des promesses de Javier Milei à ses électeurs.
Juliette Chénion, votre revue de presse, elle aussi, à retrouver sur notre site internet. L'actualité des Outre-mer françaises, Serge Massot, le conseil régional de Guadeloupe a été perquisitionné hier.
Oui, le conseil régional et le syndicat mixte Route de Guadeloupe perquisitionnés hier par la police judiciaire dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet européen et qui concernerait la gestion des fonds FEDER, ces fonds européens pour le développement régional. Les précisions d'Eric Stimpfling de Guadeloupe la première.
Il y a des coïncidences parfois étranges. Alors que Harry Chalus est en déplacement officiel à Saint-Denis de la Réunion, où il doit prendre la présidence tournante des régions ultra-périphériques, voilà que l'Europe s'invite au même moment en Guadeloupe, plus précisément le parquet européen. Il s'agit d'un organe indépendant de l'Union européenne chargé de rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En Guadeloupe, ces intérêts financiers ont un nom, celui d'aide européenne, soit 638 millions versés entre 2021 et 2027. 638 millions pour lesquels la région Guadeloupe est autorité de gestion au titre des programmes tels que le FEDER ou encore le FSE. Agissant sur réquisition, deux équipes de 6 fonctionnaires de la police judiciaire ont donc effectué hier 2 perquisitions quasi simultanée, la première au conseil régional, la seconde à Route de Guadeloupe, 2 perquisitions qui à chaque fois ont duré plusieurs heures, au-delà de 17 heures, a-t-on même constaté du côté de Basse-Terre. Ainsi toujours à Basse-Terre, les enquêteurs se sont attardés dans certains bureaux et services, comme celui en charge des travaux, de l'informatique ou encore des routes.
Et puis visite express de la ministre déléguée à l'autonomie et au handicap en Martinique, Charlotte Parmentier-Lecanq, a annoncé une enveloppe de 53 millions d'euros pour financer des travaux dans des EHPAD de l'île. Écoutez.
Concrètement, l'État apporte des financements supplémentaires pour créer de nouvelles solutions, mais également des solutions de financement, notamment la rénovation d'EHPAD. Ce sera défini conjointement avec la collectivité territoriale. Au total, côté État, c'est 53 millions d'euros qui sont apportés. Côté collectivité territoriale de Martinique, c'est 50 millions d'euros qui sont apportés. Donc, vous voyez, ce sont globalement des montants très conséquents qui sont mis sur la table pour développer ces nouvelles solutions. Il a été acté que reconstruire le projet à l'identique n'était pas la solution, ça ne correspond pas à ce qu'on
veut. On va être assez bref pour dire au revoir, vu le temps.
On ne veut plus des personnes qui soient à quatre dans une chambre, avec des toilettes partagées, etc. On veut que ce soit des lieux de vie. Et dans ce projet, il y a ce village senior, qu'on a appelé, qui sera le premier pas concret que nous allons lancer avec l'ARS, qui va lancer un appel à projet qui prendra forme d'ici juin 2025 et qui sera la première étape marquante pour transformer les choses.
C'était la ministre Charlotte Parmentier-Lecoq au micro de Mike Lirasque de Martinique, la première. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot et merci à tous d'avoir été avec nous. L'émission était réalisée aujourd'hui par Yann Eligouin. On se retrouve demain à 11h, temps universel. Et tout de suite, de vive voix avec Pascal Paradou. Il sera question de théâtre et de la pièce La Cerisaie de Tchekhov qui est mise en scène en ce moment à la Comédie Française. Très bonne journée à tous.